Entame ton après-midi en douceur avec un grain d'inspiration et un nuage de singularité. Au Café des Métiers, tu découvriras la face cachée de certaines professions, tu envisageras une nouvelle vocation ou tu te reconnaîtras dans le partage de l'invité du jour. Motivation, difficulté, doute, espoir et passion. Installe-toi et laisse-toi embarquer par le Café des Métiers, tout de suite, sur Prune. You may have the money, but you've got to go. It's sensible, and those endless seasons that go on and on, incredible. But I'd sooner get out.
À toutes et à tous et bienvenue au Café des Métiers. Moi c'est Charlotte et c'est la première de l'émission aujourd'hui. On se retrouvera tous les mercredis pour découvrir les coulisses professionnelles de l'invité du jour. Aujourd'hui nous avons la chance, que dis-je, l'honneur d'accueillir au Café des Métiers Florian Mallet, illustrateur nantais, dont le parcours est aussi riche que les gammes de couleurs qui arborent ses créations. D'un doctorat en hydrologie et géographie à la sérigraphie, Florian est aujourd'hui illustrateur à temps plein. Entre l'université, la thèse, les jobs alimentaires et sa passion pour l'illustration, nous allons partir à la découverte du parcours d'un illustrateur qui pourra peut-être vous inspirer à votre tour. Bonjour Florian. Bonjour Florian.
Salut.
Et bienvenue au Café des Métiers. Merci de venir nous partager ton expérience. C'est beau de voir l'évolution, s'est rencontré en tant que surveillant, collègue au lycée. Et voilà, un an plus tard, tu es illustrateur à temps plein. Et moi derrière ce micro, on va remonter un petit peu le temps ensemble. Et avant de parler de ton quotidien actuel en tant qu'illustrateur, on serait curieux d'en savoir davantage sur cette thèse en géographie. Comment as-tu vécu tes années d'étudiant, sachant qu'un doctorat dure 7 ans, rappelons-le, donc c'est beaucoup d'années. Comment as-tu vécu ces années ?
Alors, en fait, en tout, enfin, le doctorat, c'était 4 ans, mais oui, si on prend les années fac, en fait, en tout, j'ai fait quasiment 10 ans. Entre la licence, master, plus la thèse et tout ça. Donc j'ai adoré la fac, moi j'ai trop aimé les années fac, j'ai trouvé que c'était hyper enrichissant. J'ai commencé par une licence de géographie, et ce que j'aimais c'est que du coup en sciences humaines on rencontrait énormément de profils différents, et même à la fac de façon générale, donc c'était vachement enrichissant. Et puis bah, les choses se sont enchaînées en fait, c'est-à-dire qu'après la licence, un master... Master 1 assez général, et puis petit à petit je commence à m'intéresser à la géographie, mais plutôt côté géographie physique, donc sur les phénomènes naturels, la question des inondations notamment. Et de fil en aiguille j'ai continué, et puis mes parents étaient pas mal derrière moi, j'ai deux grandes sœurs qui ont aussi été à la fac, donc il y avait un peu cette culture-là dans la famille, voilà. Même si assez vite, on va dire très, très franchement, dès le Master 1, je sentais que j'allais dans une voie que j'allais suivre quelques temps, mais vraiment pas pour ma vie pro, ou en tout cas, juste en partie. Quoi.
D'accord.
Donc ça a été vraiment à partir du Master 1 où j'ai eu cette sensation-là, où j'ai commencé à faire beaucoup de musique à ce moment-là, et du dessin aussi.
D'accord. Voilà. Et donc, petite question, on parlera un peu plus après de la partie créative de ton parcours. Est-ce que tu sais pourquoi tu avais choisi la géographie ?
C'était vraiment un hasard. C'est-à-dire que c'était l'ex d'une de mes sœurs qui avait fait ces études-là. Et lui travaillait dans l'environnement et l'aménagement paysager. Et donc, il m'avait dit, c'est ça les études que j'ai fait. Moi, c'était fin de mi-lycée, mi-terminal, je pense. Et donc, on allait commencer les souhaits pour l'année d'après, quoi, les fameux post-bac. Et donc, j'ai choisi ça.
D'accord.
Ouais.
Donc, tu t'es lancé sans vraiment avoir de projet particulier pour la suite.
Aucun.
Et est-ce que tu as l'impression que ces années à l'université t'ont servi tant sur les notions que tu as apprises que sur la manière de réfléchir ? Parce que avant tout, on apprend aussi à la fac à apprendre et à penser. Est-ce que ça t'a servi pour la suite ?
Franchement, ouais. Ouais, je trouve que... Après, moi, j'ai pas vécu d'autres types d'écoles. Hein. J'ai pas fait d'école privée ou autre. C'était vraiment université à fond. Et j'ai adoré. Je trouve que, quel que soit, en fait, le domaine que tu étudies à la fac, ce qui est intéressant, c'est justement toute la méthode, en fait. La méthode d'organisation, la méthode de réflexion, la méthode de présentation. C'est vraiment le côté méthodologique, je trouve, intéressant. Au-delà du côté vraiment... connaissances pures et dures, et même si elles sont hyper intéressantes, et puis on les garde tout au long de notre vie, mais c'est vraiment le côté méthode, je pense, qu'on peut appliquer à plein de domaines derrière, quoi. Et puis surtout, la fac, je trouve, c'est... Enfin, je refais lien avec ce que je disais au début, on rencontre beaucoup de gens de plein de milieux différents, et en fait, c'est l'ouverture d'esprit, quoi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti la fac, et j'adore la fac, quoi.
D'accord, ouais. Voilà. Donc t'as appris des choses qui te serviront pour plus tard aussi, et c'est surtout beaucoup de rencontres, effectivement, ouais. Les études... Et donc, tu avais conscience assez rapidement que tu n'allais pas continuer dans ce secteur, mais tu as quand même continué jusqu'à un doctorat, quand même, une thèse. Est-ce que, avec du recul, tu as l'impression que c'était peut-être pour une forme de réussite sociale, reconnaissance, ou pour faire plaisir à ta famille, tes parents, ou pas du tout ?
Ouais, en partie, il y a ça. En fait, quand j'ai annoncé à mes parents à partir du master, alors à l'époque, je ne voulais pas faire de dessin, je voulais ouvrir un bar. Bon, mes parents ont bien fait de me dire à 19 ans que c'était peut-être un peu tôt. Enfin, pas 19, mais plutôt 20 ans que c'était peut-être un peu tôt. Et puis l'idée, finalement, n'a pas germé derrière. Il y a eu plusieurs fois où j'ai voulu changer. Et puis mes parents me disaient, non, mais continue, tu as déjà fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, etc. Donc il y a quand même ça. Ils ne m'ont pas mis une énorme pression, il ne faut pas déconner. Mais le fait qu'ils m'aient toujours accompagné aussi fait que j'avais un peu du mal à finalement me retourner et leur dire non, en fait j'ai pas vraiment envie, et en plus de ça j'aimais bien ces études là donc finalement voilà, c'est pas juste une histoire de pression sociale ou familiale, il y avait un petit peu le côté famille, et en même temps je me disais bon, ça me permettra d'avoir un diplôme un peu qui me servira
reconnu.
Peut-être quoi, voilà, reconnu, ouais. Mais je savais pas que ça allait changer radicalement quand même,
ouais.
Pour moi après,
d'accord,
voilà, je l'avais en tête mais je savais pas que j'allais le faire.
Le Café des Métiers, un ou une invitée, une foule d'expériences.
Vivre de son art, c'est l'objectif d'un grand nombre d'artistes. Aujourd'hui, Florian le réalise. Actuellement, donc, tu es illustrateur, maintenant,
ouais.
Donc, ce qui n'a rien à voir avec la géographie. On ne peut pas vraiment parler de reconversion, parce que ça n'a pas été... la création a toujours fait partie de ta vie, de plus ou moins proche. Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir des doutes, de te dire que tu prenais peut-être trop de risques d'arrêter dans le secteur de la géographie pour te lancer à plein temps dans l'illustration et la création ?
Je pense qu'en fait, après la thèse, du coup, j'ai pas continué en recherche. Moi, j'ai monté un bureau d'études, j'étais auto-entrepreneur en fait. Et j'ai pris une grosse baffe en me rendant compte que je venais de passer 4 ans en thèse à travailler que sur un sujet ultra précis, que j'étais à 200% dessus et qu'en fait on me demandait rien d'autre, et c'était super passionnant, à des missions vachement plus terre à terre, d'aménagement du territoire où il fallait répondre à des exigences qui venaient de l'État, des ministères de l'environnement, etc., etc. Et en fait ça a été trop brutal pour moi, je m'y attendais pas du tout, parce que j'étais pas prêt à continuer en recherche, j'étais pas assez passionné. Et je me souviens de mon directeur à l'époque m'avait dit, si t'as pas la passion, n'y va pas. Donc j'ai tenté le côté pro à plus appliqué, j'ai pris une baffe, et en fait, c'est la première fois que j'ai vraiment un peu pété un plomb, quoi, au niveau boulot. Et je sais plus où j'en étais sur le début de la question.
La question, c'était les doutes.
Est-ce oui, voilà, les doutes, excuse-moi. Et en fait, non, justement, j'étais arrivé à un tel niveau, en fait, de dégoût, faut pas rigoler, mais... ça m'allait plus du tout, donc il me fallait une rupture. Donc à ce moment-là, j'ai pas douté, je me suis dit j'essaie, puis j'avais un peu de chômage derrière. Donc des doutes, il y en a toujours, mais en même temps, quand t'as envie, t'y vas à fond.
Ouais.
Et puis je m'étais dit, quoi qu'il arrive, je trouverai un moyen de me retourner. Donc les doutes, c'est plutôt maintenant que je suis à 100%, que je me les pose, parce qu'il faut pérenniser le fait d'en vivre à 100%, quoi.
C'est ça. Donc finalement, c'était un manque de liberté dans ton travail qui t'a poussé à prendre ce risque, et se dire que finalement, le risque de la liberté en valait la peine.
Ouais, c'est ça. Alors, j'étais libre quand même dans mon organisation, hein, parce que j'étais auto-entrepreneur et tout, mais j'étais pas heureux de ce que je faisais, en fait. Voilà.
Et Florian, on va parler davantage de ta pratique concrète en tant qu'illustrateur. Je sais que tu pratiques la sérigraphie. Est-ce
ouais.
que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ? Qu'est-ce que c'est concrètement ?
Alors la sérigraphie, c'est une méthode d'impression artisanale. Vous avez sûrement déjà dû voir ça. C'est un cadre en aluminium avec une toile en soie tendue très 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 fort. Et le principe, c'est de transférer son dessin sur cette toile en soie par une méthode qui ressemble un petit peu à de la photo. On fait interagir une matière qui va réagir à la lumière et notre dessin. Et on obtient une sorte de pochoir, en fait. Et il faut imaginer que pour imprimer un dessin en une couleur, par exemple en bleu sur, un papier blanc, on prépare un cadre pour faire le passage du bleu. Il faut imaginer que si on a un dessin avec trois couleurs, bah on prépare trois cadres. Donc à chaque fois, on imprime toutes nos feuilles en bleu, on change de cadre, on prépare pour le jaune, etc. Et on superpose les couches comme ça. C'est un peu c'est la méthode de Andy Warhol avec les Marilyn Monroe, que tout le monde connaît. Et donc l'avantage de la sérigraphie, c'est qu'une fois que le pochoir est prêt, on peut changer de couleur, en fait. On peut imprimer d'abord plein de jaune, et puis sur le même visuel, prendre d'autres feuilles, passer à du rouge, du bleu, du violet, faire des dégradés. Donc voilà, c'est une méthode qui vient plutôt du milieu punk, et c'est une méthode qui permet d'obtenir vraiment des beaux tirages d'art, quoi.
D'accord. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, je pense qu'il y a plein de méthodes pour imprimer ce genre d'œuvre d'art. Pourquoi tu as choisi une méthode qui est chronophage, qui prend pas mal de temps? Pourquoi la sérigraphie en particulier? Qu'est-ce qui te plaît?
Alors, quand j'étais justement géographe, j'ai fait 6 mois dans un coworking, c'était l'horreur. Et derrière, j'ai un pote qui m'a dit, à l'atelier de sérigraphie, on a une place, si tu veux mettre ton bureau. Donc, ce pote, il s'appelle Ben Saner. Il est à Avignon, parce que j'habitais à Avignon à l'époque. Et donc, lui, ça a été ma première rencontre avec la sérigraphie, en fait. Lui, il en faisait déjà son... Enfin, il se lançait à fond là-dedans. Il en faisait depuis quelques temps, mais il commençait à faire son boulot, enfin, faire en sorte d'en faire son boulot. Donc, c'est vraiment un imprimeur de malade. Il y va à fond les ballons. Et du coup, on n'a jamais fait ensemble de sérigraphie. Mais par contre, il imprimait mes dessins à moi. Il a commencé à m'imprimer des dessins, il me proposait, quoi. Donc ça a été ma première rencontre avec la sérigraphie, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ok. Grâce aux rencontres, donc.
Ouais,
c'est très important dans ton parcours aussi. Et est-ce qu'il y a des artistes, tout à l'heure on parlait d'Andy Warhol, ou un style d'illustration en particulier qui t'inspire, toi, dans ton travail?
Ouais, alors moi, là, je suis venu au dessin vraiment par... Enfin, je suis venu au dessin. J'ai toujours aimé dessiner, mais je m'y suis remis quand je faisais de la musique. Et c'est notamment des artistes qui font des pochettes d'albums. Je pense à un artiste comme Richie Beckett, qui est un artiste du Royaume-Uni, qui lui fait des super pochettes d'albums, alors plutôt dans le milieu musique plutôt extrême. Il a fait pas mal de pochettes pour des groupes comme Mastodon, qui sont des groupes assez connus, même Metallica, je crois qu'il a fait des trucs pour eux. Il y a John Dyer Basley, qui est un guitariste chanteur de Baroness, qui est un groupe pareil dans ce genre là qui fait des super pochettes. Donc c'est des mecs qui viennent du tatou, de la gravure. Et puis avant tout ça, c'était une femme qui s'appelle Caitlin Hackett, qui est une américaine, qui elle fait énormément de dessins d'animaux. C'est super fantasmé, c'est très noir aussi, mais avec beaucoup de couleurs. Donc elle, je pense, c'est la première qui m'a vraiment marqué sur le type de dessin vers lesquels je voulais aller. Et après, comme beaucoup de gens, Hayao Miyazaki. Ça a été un autre déclic sur le côté univers.
D'accord.
Plus que sur le côté dessin en lui-même. Voilà, donc c'est le tatou, la gravure, ça a été un peu la première approche.
Et tous les artistes que tu viens de citer, tu les as connus récemment ou vraiment depuis le début que tu t'intéresses à l'illustration ?
C'est quand j'avais une vingtaine d'années, tout.
D'accord.
Ça. Ouais. Et après, j'en ai découvert d'autres depuis, plus dans la BD notamment et dans le roman graphique.
D'accord.
Clément Vuillier, que j'aime beaucoup, Jérémy Perraudeau. Dans un style complètement différent, Anouk Ricard, voilà.
D'accord, merci pour toutes ces références. N'hésitez pas à aller regarder tout leur travail. Et malgré toutes ces inspirations, il doit arriver, comme tout artiste, d'avoir le syndrome de la page blanche, peut-être. Si oui, est-ce que tu as des techniques pour y faire face?
Alors le premier syndrome en tant qu'artiste, c'est l'imposteur, comme beaucoup.
Ah oui.
C'est la première chose. Après, on commence à prendre un peu plus confiance et en effet, il peut y avoir la page blanche. C'est s'inspirer des autres tout le temps. En fait, je pense qu'il faut toujours regarder ce que les autres font. Ça ne veut pas dire copier, hein, mais de toute façon, notre cerveau, il arrive à accumuler un max d'infos, en fait. Donc, je pense qu'il faut toujours aller regarder à droite, à gauche. Faut pas se fermer, en fait, et pas se dire si je vais regarder, je vais plus être moi-même. Non, pas du tout. De toute façon, notamment en dessin, en fait, si tu veux, c'est comme l'écriture. On se rend peut-être pas toujours compte, mais t'as ta façon de tenir ton feutre, ton stylo, la façon de bouger ta main. Dans tous les cas, t'as un trait qui est unique, qui est juste à toi. Donc, même si tu essayais de recopier quelque chose, à moins vraiment d'y aller de façon hyper minutieuse, tu vas toujours t'éloigner un petit peu de ce que tu es en train d'essayer de copier.
Tu apporteras toujours ta petite touche à c'est toi ça. Personnelle.
Du coup, non, la page blanche, je pense, faut regarder, faut tester. Et puis, faut pas avoir peur de tester aussi, quoi.
Oui.
C'est un peu le risque, je trouve, quand t'es indépendant après. C'est que, enfin, moi, en tout cas, je fais face à ça des fois. C'est que je me dis, si je commence un dessin, faut que ce soit un dessin qui soit beau, comme je l'imagine, qui se termine, que j'imprime, et puis que je puisse proposer derrière, quoi. Mmh. Alors qu'en fait, bah, des fois, faut aussi s'autoriser à tester. Et puis, ça marche pas, c'est pas grave, quoi. Voilà.
D'accord. Et je me souviens d'une fois où tu t'étais isolé dans une maison en Bretagne pour travailler sur un projet BD. Est-ce que c'est une expérience qui a abouti ? Est-ce que tu as eu l'impression que ça t'a aidé ? Est-ce que tu le referais potentiellement ?
Ouais, franchement, je pense que si c'est pas là, c'est une des meilleures expériences depuis que je fais l'illustration. Ouais, j'étais parti à Belle-Île-en-Mer en plein mois de février pendant 4 jours et j'étais tout seul. J'avais croisé même pas 8 marcheurs en tout. C'était super bien et j'y allais pour travailler un projet de BD. Donc j'avais beaucoup avancé sur ce projet-là, mais en fait, ce qui en est sorti concrètement, ça a été un livre assez poétique, en fait, où j'ai écrit spontanément des choses sur l'océan, les vagues, la mer et tout ça. Et j'ai illustré ça tout aussi spontanément sur un aller-retour en train 2 mois après. Et j'en ai fait un bouquin. C'est un Leporello, c'est des bouquins accordéon, en fait. Mmh. Et donc ça a été hyper enrichissant et surtout ça a donné lieu à quelque chose que j'avais pas envisagé du tout en fait. Voilà.
D'accord, c'est intéressant, tu t'inspires d'autres artistes mais aussi simplement de la nature, de tes propres expériences personnelles en fait.
Essentiellement de la nature,
d'accord.
C'est observation vraiment et après, quand je me mets à dessiner, je regarde pas nécessairement des photos que j'ai prises ou autres. J'essaie de faire toujours des trucs un peu fantasmés. Enfin, quand je dis fantasmés, c'est pas que j'aimerais nécessairement les voir, mais des choses un peu surnaturelles, voilà, sans faire des trucs de magie. Mais bah, je pense Miyazaki, il y a vraiment ce truc-là, justement, même s'il y a un peu de magie, mais ce côté, amener quelque chose d'un peu surnaturel.
D'accord. Voilà. Et pour comprendre un petit peu ton processus de création, par exemple, qu'est-ce qui se passe entre le début de la commande, par exemple, d'une cover d'un album, au rendu final ?
Alors bah déjà, les covers, ouais, c'est vrai que c'est les commandes que j'aime beaucoup faire en plus, en plus des sérigraphies. Bah, généralement, je demande au groupe de m'envoyer, enfin déjà de me dire ce qu'ils veulent,
oui.
S'ils ont des idées, parce que parfois il y a aussi la proposition d'avoir carte blanche. Donc des idées, je leur demande de m'envoyer des pochettes d'albums qu'ils aiment beaucoup aussi. Je leur demande s'ils ont des idées de couleurs aussi. Et puis ensuite, la première étape, c'est réaliser un croquis. Donc je réalise toujours plusieurs croquis jusqu'à arriver à la version qui va leur plaire. Les croquis, c'est très très rapide en général. Je passe pas énormément de temps dessus. L'idée, c'est qu'on ait la composition générale, que tout le monde voit à peu près les proportions, les positionnements de chaque objet, les premiers plans, le deuxième plan, etc. Et une fois que ça c'est confirmé, je passe à la méthode d'ancrage. Donc l'ancrage, c'est le moment où je vais vraiment mettre tous les détails. Mmh. C'est la grosse phase. Et c'est une phase sur laquelle les groupes ne peuvent pas revenir, en fait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a validé le croquis, s'ils sont venus me voir, c'est qu'ils ont vu mon travail, qu'ils savent comment je vais traiter le dessin, comment je vais apporter de la matière, de la forme, de la lumière, du contraste et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment la partie qui est la mienne. Et il n'y a pas de modif là-dessus. Et derrière, par contre, il y a énormément d'allers-retours ensuite sur la couleur, parce que je fais la mise en couleur en numérique sous Photoshop, quoi. Et donc là, on fait beaucoup d'allers-retours jusqu'à ce que le groupe ait vraiment la pochette qu'il souhaite, sachant que la couleur a une force énorme dans la mise en valeur d'un dessin en noir et blanc, en fait, hein, à la base. Même si au départ, je suis fan de noir et blanc, depuis que je fais de la couleur, maintenant, je me rends compte de la force, en fait, de la couleur, et je fais plus que ça.
Ouais, d'accord.
Voilà. Enfin, je fais pas plus que ça, mais je passe beaucoup de temps à faire de la couleur maintenant aussi.
D'accord. Voilà. Et tu disais tout à l'heure qu'il y a une phase, au moment où tu rajoutes tous tes détails à toi, irréversible.
Ouais.
Est-ce que par le passé, tu t'es déjà fait avoir en disant oui à des clients potentiels qui voulaient ajouter plein de modifications, mais ça perdait du charme en fait de ce que toi tu avais créé?
Ouais, ça m'est arrivé une fois, hein, et puis pas deux, parce qu'en fait c'est normal, au début on teste, on a envie d'avoir des contrats et tout, et ouais ça m'était arrivé. J'ai eu une expérience avec un groupe, en plus un groupe très sympa, j'aimais beaucoup leur musique, et on a eu un peu du mal à se comprendre. Je pense aussi que j'étais un peu jeune moi dans ce que je leur avais proposé et ce que j'étais capable de faire, donc ils m'avaient fait confiance, en même temps c'était pas très clair de leur côté. Et voilà, on essaie d'éviter ce genre de truc. Après, c'était pas catastrophique, mais c'est vrai que refaire des dessins et tout ça, voilà. Donc, j'essaie de borner au max avant. Et puis, surtout, je me dis, bah, si les gens viennent me voir, alors au départ, justement, tu as un peu ce truc de l'imposteur, et puis plus t'en fais, moins tu l'as. Mmh. Donc, maintenant, je me dis, si les gens viennent me voir, c'est pour vraiment la façon dont je vais traiter le dessin. Donc, une fois qu'on est OK sur l'idée, derrière, ils me font confiance, et jusqu'ici, ça s'est bien passé. Voilà.
D'accord, donc on se forge avec le temps et l'expérience. Florian, petite pause musicale d'un morceau que tu as choisi. Tout de suite, on va écouter Taste de Rob Crow. Désolé pour l'accent. C'est parti. Café des métiers avec Florian. Qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans cette musique ? Pourquoi tu l'as choisi ?
Rob Crow, c'est un de mes artistes préférés. C'est un copain avec qui je faisais de la musique, Mika, qui m'avait fait découvrir cet artiste-là. Bah, je sais pas, elle a une mélancolie que j'aime énormément. Et en même temps, elle a ce côté boîte à rythme et batterie en plus qui est super prenant, je trouve. Le côté lo-fi, c'est vraiment le type de musique parmi tout ce que j'écoute, je pense, qui me parle le plus.
Ouais, très sympa, ça met voilà. Dans une bonne ambiance. Alors, on va reprendre un petit peu avec ton quotidien en tant qu'illustrateur. Tu oscilles entre le travail à la maison et le travail à l'atelier. Est-ce que tu penses, selon toi, que c'est important de travailler à des heures fixes et de s'obliger à avoir une certaine discipline quand on est illustrateur, au risque parfois d'étouffer peut-être les fulgurances de créativité ?
Ben, je pense que ça, c'est propre à chacun, chacune. Moi, le truc aussi, c'est que j'habite avec quelqu'un. Et du coup, c'est quelqu'un qui, du coup, a fait aussi des efforts pour que je puisse arriver à faire ce travail-là. Enfin, quand je dis des efforts, à prendre sur soi, justement, sur le fait de travailler le week-end, sur des horaires qui sont un peu étranges des fois et tout ça. Donc, plus ça avance, plus j'essaie de me calquer un peu sur le rythme plus classique de cette personne-là. Et donc, je m'impose un peu des horaires. Après, ça m'arrive de dépasser. Et puis, je travaille les week-ends aussi assez régulièrement. Donc, plus ça avance, plus j'essaie de me discipliner là-dessus. Mais par contre, oui, il y a des moments où on a, comme tu dis, des espèces de fulgurances. Mmh. Alors au début, ça, ça fait super pédant, genre excuse-moi, faut que je te laisse, faut que j'aille dessiner, ou faut que j'aille écrire un truc, ça fait très pédant. Mais finalement, en fait, ça m'arrive franchement des fois, et du coup, ma compagne, au début, ça la faisait marrer, et puis maintenant, voilà, elle sait qu'il faut que j'aille écrire un truc, une idée, un machin. Après, oui, ça fait un peu pédant de dire ça, mais mine de rien, quand on est toujours en train de réfléchir à des projets, bah oui, il y a des moments où ça infuse un peu, quoi.
C'est ça. D'autant plus quand ton métier est aussi ta passion, et ouais, que c'est une passion créative, ça peut venir à n'importe quel moment. D'un coup, t'as un flash, ah, ça, ce serait super beau à dessiner. Ça prévient pas, quoi.
Ouais. Bah après, bon, vu que je suis pas sûr de l'écriture et que je suis vraiment sûr du dessin, les dessins prennent beaucoup de temps. Mais c'est plus, ça va arriver plutôt quand je suis sur un projet et que j'ai besoin d'avancer. En fait, tant que je finis pas, ça mouline dans la tête, quoi. Quand je suis cool entre deux projets, j'ai moins ce truc-là, quoi.
D'accord.
Donc oui, pour répondre à ta question, je m'impose de plus en plus d'horaires.
Ouais. D'accord. Et au-delà de cette question d'organisation du quotidien, est-ce que tu fais face à d'autres difficultés en tant qu'illustrateur à ton compte ?
Alors la difficulté principale, c'est de pérenniser l'activité, en fait. Du coup, il faut avoir toujours voir à 4, 5, 6 mois en avance. C'est ça qui est un peu compliqué parce que tu es tout seul. La plateforme principale pour me mettre en avant, moi, c'est Instagram. Mmh. J'ai un site internet sur lequel je fais de la vente, mais j'en fais assez peu. En fait, c'est vraiment le réseau social. Mais d'un autre côté, moi, je ne suis pas à fond de réseau, donc je ne partage pas tout le temps des choses. Mmh. Mais j'essaie d'entretenir enfin le bouche à oreille à fond, et puis discuter avec les gens en fait. Donc je fais pas mal de marchés de créateurs créatrices, et là je rencontre du monde. On s'échange des plans, et puis pareil, j'échange avec des artistes. À l'atelier où je suis, il y a d'autres artistes. Donc, et puis pas que des artistes, il y a des menuisiers, des gens qui font de la photo et tout ça. Et je pense que dans tous les cas, c'est une histoire de rencontre. Et puis entretenir un bon lien aussi avec les gens qui s'intéressent à ton travail, quoi. T'es pas juste là en petite star, surtout que je suis pas du tout une star, mais je veux dire les gens qui envoient des messages pour discuter, moi je me dis allons-y, on va parler. Et puis parfois en fait ça devient des potes. Mmh. Et puis des fois c'est des gens qui tout à coup vont dire ah tiens au fait je connais telle personne qui a une grosse commande à passer pour un mur et tout, est-ce que ça t'intéresserait? Et en fait c'est vraiment c'est du bouche à oreille. Mais à côté de ça il y a des choses comme les marchés de créateurs créatrices sur lesquels faut avoir un coup d'avance à plusieurs mois en avance, et ça c'est un peu la difficulté. Si t'es pas bien organisé, il y a pas mal de trucs qui peuvent te passer sous le nez, tu peux vite passer dans une phase stressante où tu te dis ah j'ai pas de sous qui vont rentrer. Voilà. Mmh. Ça c'est la vérité du quotidien.
D'accord. Donc beaucoup de rencontres et beaucoup d'échanges inspirants. Tu parlais d'un site internet et d'un compte Instagram. Est-ce que tu peux nous le partager si certains auditeurs, auditrices souhaitent voir ton travail?
Instagram, du coup, c'est Florian Mallet. D'accord. Donc c'est _florian.mallet_. Enfin, barre du bas. Dessus, il y a toutes les infos. Il y a mon site. Hein, c'est un site Etsy. Pour les Nantais, Nantaises, le mieux c'est de me contacter en direct parce que c'est plus facile. Vous pouvez passer à l'atelier, et on peut discuter, voir en direct les œuvres et puis l'atelier. Voilà.
D'accord, très bien. Et je mettrai le compte Instagram sur la page du Café des Métiers sur prune.net également.
C'est une bonne situation, ça, scribe.
Vous savez, dans notre métier, il vaut mieux passer pour un fou que pour un imbécile.
Et alors là, vous risquez pas la camisole, vous.
Nous sommes toujours au Café des Métiers avec Florian. Alors Florian, si tu pouvais donner un conseil à un jeune ou une jeune illustratrice, illustrateur, qui a des appréhensions à se lancer, qu'est-ce que tu lui partagerais ?
Alors moi, je suis moi-même jeune illustrateur, illustratrice
tout
au final.
Bien sûr.
Donc je suis en plein dedans. Ça arrive pas tout seul évidemment, comme plein de projets, notamment des projets comme ça, c'est assez précaire, faut pas se le cacher. Tu disais que j'en vis maintenant, c'est vrai, mais c'est un petit salaire, hein. Je suis passé par 4 ans de boulot alimentaire avant de pouvoir le faire à 100%, donc faut pas avoir peur d'y aller si on a vraiment envie de le faire. Mais après voilà, faut être conscient que c'est pas des métiers qui rapportent des masses. Après moi c'est pas ça que je cherche. Oui. Et puis ça demande souvent de compléter avec d'autres activités à côté. L'autre chose que je pourrais dire, c'est y aller à fond, tester. En fait, faut tester, faut produire à mort, quoi. Moi, c'est ce qu'on m'avait conseillé. C'était un mec qui s'appelait Philibert, qui est décédé maintenant, mais qui faisait de la BD, qui lui m'avait dit il faut que tu produises, c'est tout. Et puis après, tu verras, quoi. Mmh. Donc, faut produire, produire, produire. Et il y a un moment où il va y avoir une rencontre entre ce qu'on aime faire et ce que le public, en gros, aime bien dans ce qu'on aime faire. Et faut pas faire juste pour les gens, faut pas juste essayer de copier ce qui a plu une fois ou deux, mais c'est via ces rencontres-là, en fait, entre ce qu'on fait et ce que les gens aiment, qu'on finit par trouver aussi des fois un truc qui permet de se développer. Voilà, faut pas se forcer à faire, par contre, faut être un peu regardant sur les retours des gens et pas avoir peur aussi de prendre des retours, quoi.
Oui.
Voilà. Positif et négatif, quoi.
Tout à fait.
Voilà.
Pour évoluer, c'est très inspirant. Merci, Florian. Dans 5 ans, quel aspect de ta vie professionnelle aimerais-tu maintenir ? Et à l'inverse, qu'est-ce que tu aimerais modifier d'ici là ?
Alors, ce que j'aimerais maintenir, j'aimerais bien continuer à bosser avec des groupes de musique, parce que j'adore ça. J'aimerais bien continuer à faire de la sérigraphie. Après, la sérigraphie, c'est pas une méthode ultra écolo. Ça utilise beaucoup d'eau, beaucoup de produits chimiques. Donc, peut-être que je changerais de méthode ou avec d'autres produits. J'aimerais bien réussir à faire ça petit à petit. Ce que j'aimerais changer, j'aimerais me libérer du temps pour faire plus de choses gratuitement, en fait, des ateliers de dessin, des ateliers de sérigraphie. Pour ça, en fait, il faut pouvoir se dégager du temps, en fait. Donc avoir des projets un peu plus rémunérateurs qui me laissent du temps, en fait, pour pouvoir faire ça. Voilà, j'aimerais bien faire ça. J'avais fait une fresque l'année dernière, une fresque murale avec des jeunes adultes en situation de handicap, et j'aimerais bien pouvoir continuer ce genre d'action. Voilà, c'est le genre de choses que j'aimerais pouvoir faire plus tard, donner un peu plus de temps gratuitement, et voilà, et pas juste être à courir après le fait d'avoir des sous et d'en vivre, quoi. Voilà.
D'accord, et bien merci Florian,
merci à toi
pour ton partage. On te souhaite plein de force pour tes projets.
Merci beaucoup.
Et nous, chers auditeurs, auditrices, on se retrouve mercredi prochain à 13h30 sur Prune pour le rendez-vous du Café des Métiers, et tous les jours en podcast sur prune.net. Je vous souhaite une belle après-midi, travaillez bien, aimez ce que vous faites, faites ce que vous aimez, et surtout, prenez soin de vous.